au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Sauty de Chalon.
Au fil des pages, avec le sens chrétien des mots non propres et communs du catholicisme, c'est aux éditions Tempora et c'est signé Pascal Raphaël Ambrogi. Bonjour Pascal Raphaël Ambrogi.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour en parler. Alors je rappelle que vous avez déjà quand même une certaine longévité d'écriture puisque vous avez publié à plusieurs reprises sur la langue française. Particularité et finesse de la langue française, c'était aux éditions Chifflet et compagnie en 2005. Et sous le même titre aux éditions 10-18 l'an dernier, en 2007. Vous revenez avec un ouvrage qui concerne donc le sens chrétien des mots. Les mots sont-ils religieux par essence? Ça, c'est une question que l'on pourra se poser. La langue elle-même renvoie sans doute d'ailleurs à des réalités spirituelles. En tout cas, c'est une question qui va nous animer tout au long de cet Au fil des pages. Vous animez un groupe parlementaire au Sénat. En soi, ce n'est pas la politique et le goût du débat, des mots qui vous a incliné vers cet aspect des choses?
Le goût du débat, certainement. Et surtout la volonté de faciliter la compréhension, l'échange, l'expression des idées ou de la sensibilité entre les hommes. Donc évidemment, on peut imaginer un lien entre la vie parlementaire, c'est-à-dire le cœur du débat, et puis le goût de la langue et de l'expression claire et précise.
Et qui vise à clarifier les concepts.
Exactement, et à encore une fois permettre une bonne entente, une bonne compréhension entre les hommes. Et puis aussi la transmission des savoirs, des idées et de l'animation du débat.
Alors c'est le cardinal Paul Poupart qui préface votre ouvrage et qui a cette phrase lumineuse « La foi est créatrice de culture ». C'est-à-dire que le lien entre religion et langue française, et langue en général, est immédiat.
Oui, le lien entre la foi et la langue, le lien entre la foi et la culture, la foi est un vecteur d'expression artistique, de création architecturale, de rite et de lien entre les humains. Effectivement, la foi est tout à fait créatrice de culture et on s'en rend tout à fait compte en France ou en Europe, où rien n'échappe à l'emprise de la foi au niveau artistique et social. Et c'est un fait évident pour la langue française qui est pétrie d'influence chrétienne. Le cardinal Poupart a tout à fait raison.
Alors c'est la foi à travers la langue, ce n'est pas un traité de théologie,
non,
il n'y a pas d'ambition
non.
particulière de ce point de vue.
Non, non. On rappelle au lecteur ce qu'est le sens de ce vocabulaire chrétien en langue française, quelle est l'importance de ce vocabulaire, c'est un champ lexical considérable, dont parfois on a peu ou pas conscience, et il me semblait bon de rappeler pourquoi le sens chrétien est enfoui et comment on peut le contempler.
Vous auriez pu l'intituler « Le sens des mots chrétiens », et vous avez préféré « Le sens chrétien des mots ».
Oui, parce que, encore une fois, des mots ont un sens pour certains et un sens chrétien pour d'autres. Donc cette part des choses, il fallait la faire et rappeler ce double ou ce triple sens, parfois, de certains mots de la langue française.
On imagine qu'un dictionnaire, parce que c'est un dictionnaire, évidemment. Ce dictionnaire, il a fallu le constituer, il a fallu naturellement consulter quantité de documentation. Le temps, déjà, que vous prend l'écriture d'un tel dictionnaire?
Beaucoup de temps, beaucoup de recherches, parce qu'il faut faire un inventaire de cette langue chrétienne, encore une fois, réduite au catholicisme, parce que je n'ai pas eu l'ambition d'aborder le vocabulaire de l'orthodoxie ou du protestantisme ou d'autres. Donc j'ai limité ce champ à la religion catholique et il a fallu effectivement dresser un inventaire précis de ce vocabulaire passé, peu ou pas usité, ou encore en usage au sein de la langue française.
Quels ont été vos critères de sélection?
J'ai essayé d'abord d'être exhaustif, dans la mesure du possible. Donc je n'ai pas limité mon champ d'investigation. J'essayais de faire vraiment le tour des substantifs, des verbes, parfois de certains qualificatifs, et puis quelques noms propres qui me semblaient avoir un sens par rapport à l'histoire de France et à nos cultures. Alors je déborde bien sûr, pour ce qui concerne un nom propre, du territoire français. Il y a quand même beaucoup d'arbitraire, parce que dans le fond c'est un livre engagé. J'y introduis des notions qui me semblent devoir être développées. J'y introduis certains noms propres parce que voilà, je les ai arbitrairement sélectionnés. Bon voilà, c'est aussi humain. Hein, donc,
mais c'est l'intérêt d'un tel dictionnaire,
voilà,
justement, c'est que ce n'est pas une mécanique froide.
Exactement, ça me ressemble sans doute. Il y a certainement des oublis ou des fautes pour d'autres. Il m'attire certainement à le critiquer beaucoup, mais voilà, il a le mérite d'être là et de dresser un un premier inventaire de cette langue catholique française.
Le premier mot, c'est abbé, le dernier, c'est zélateur.
Voilà.
Alors, on peut en prendre certains, d'ailleurs, si vous le voulez bien.
Certains, encore une fois, qui ont pu disparaître de notre vocabulaire parce qu'on les a oubliés ou parce qu'ils sont peu en usage, et puis d'autres parce qu'ils ont pris un sens totalement différent. Je pense à lavabo, qui est un mot latin, qui est le premier mot d'une prière ou d'un psaume. Pour beaucoup, un lavabo, c'est un ustensile très utile qu'on trouve dans beaucoup de salles de bain. Mais voilà, encore une fois, il nous vient du latin, il nous vient de la langue chrétienne, et c'est un mot évidemment chrétien, et empreint de liturgie ou de sens.
Donc ce sont des mots qui se sont désacralisés. Là, désacralisés. On est dans la catégorie désacralisée.
Pour beaucoup, l'énergumène, c'est un drôle de polisson ou un animal curieux, mais en fait, c'est un humain possédé par le démon, mais c'est un mot éminemment chrétien. Bon, et il y en a comme ça des centaines qui ont un sens pour nous tous, aujourd'hui, au XXIe siècle, mais qui ont avant tout aussi encore, ou qui ont eu un sens chrétien. Donc on en trouvera beaucoup dans ce texte.
Juste à côté d'énergumène, vous êtes allé chercher des mots là quand même. Alors enfer, bon, je n'y reviens pas. C'est vrai qu'enfer aussi, c'est beaucoup dévalorisé dans sa charge spirituelle. On dit même c'est d'enfer pour dire que c'est extraordinaire, c'est bien. Donc ça s'est même inversé. Il y a des mots comme encolpion. Encolpion. Alors, encyclique, bien sûr, ça c'est connu, encyclique. Mais encore faudrait-il préciser, tenez, si on prend encyclique, ce n'est pas si simple. C'est à la fois un mot du langage courant, puis un mot, somme toute, assez technique. Hein.
Mmh, bien sûr.
Encyclique, lettre circulaire du pape relative à la doctrine de l'Église concernant un sujet d'actualité, puis vous en citez quelques-unes.
Voilà, et surtout, c'est le propre de ce dictionnaire-là, je rassemble ou je présente ensemble des mots ou des notions qui méritent d'être appréhendés ensemble. Donc à encyclique, vous allez trouver par exemple motu proprio, parce que ces deux mots font appel à doivent s'être assemblés. L'une est une lettre circulaire du pape, l'autre est une lettre apostolique. Bon, d'un coup d'œil, vous embrassez deux formes de transmission de l'instruction du pape aux fidèles.
Alors c'est vrai qu'il y a des mots qu'on a un petit peu oubliés. Fulmination, par exemple, publication d'actes pontificaux.
Mmh. Nous fulminer.
Fulminer, mais fulminer a un sens très péjoratif aujourd'hui.
Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut retourner à la source. La source est souvent chrétienne et ce texte nous le rappelle.
L'intérêt, c'est qu'on est chrétien sans le savoir, pour beaucoup.
Mais bien sûr, encore une fois, lavabo est formidable pour ça. Prenez le mot chalumeau. Chalumeau, pour beaucoup de plombiers, c'est un outil essentiel. Mais le chalumeau, c'est une paille liturgique qui permettait de communier sous les deux espèces. C'est d'abord une pièce d'orfèvrerie utile aux chrétiens dans la liturgie. Voilà, et le chalumeau, pour beaucoup, je suis sûr, pour l'essentiel, sert à bien d'autres usages.
Est-ce qu'il y a des mots qui vous ont demandé beaucoup de recherche, beaucoup de précision, soit parce qu'ils étaient un petit peu perdus dans l'histoire?
Tous, dans le fond, parce que pour dire en quelques lignes, pour aborder une notion théologique ou historique en quelques lignes, c'est toujours complexe. Donc s'aventurer ou avoir cette prétention de dire en peu de choses, en peu de lignes, quelque chose de très important, ça me semblait très difficile. Donc j'ai sans doute eu beaucoup de difficultés et j'ai passé beaucoup de temps à essayer de rendre clair des choses qui m'apparaissaient à moi-même d'ailleurs complexes. Je ne traite pas que du vocabulaire, parfois j'aborde des notions qui sont sociales ou morales. Ça va au-delà de la définition d'un mot en français. Oui, c'est un travail difficile, qui m'a semblé difficile. Je l'ai fait d'abord pour moi, dans le fond. J'ai voulu aller à la rencontre de cette culture chrétienne. Donc, j'ai découvert beaucoup de choses. Je suis, de ce point de vue-là, très modeste.
Alors, des mots, c'est vrai, un peu inattendus. Hein. C'est vrai, mordate, un chrétien renégat, mordache, juste au-dessus, entrave à la parole que devait supporter un moine capucin ayant enfreint le silence. Où est-ce que vous l'avez trouvé, ça?
Ah ben, je l'ai trouvé en consultant des livres anciens et des livres plus récents. J'ai essayé de faire un inventaire qui a demandé effectivement beaucoup de recherches, hein, beaucoup de surprises en faisant cet inventaire.
L'idée, Pascal Raphaël Ambrogi, c'est de se dire que la transmission s'opère aujourd'hui de manière beaucoup plus difficile qu'autrefois parce que les structures intermédiaires, la famille, l'école ou l'église tout simplement, manquent un petit peu à l'appel.
Voilà, il y a une fracture évidente entre des signes chrétiens qui sont encore permanents et puis un réel effacement de leur compréhension. J'ai toujours frappé de voir les touristes ou les fidèles au pied d'une cathédrale incapables de la lire. Il se passe la même chose dans le vocabulaire. On peut être en face d'une notion ou d'un mot chrétien et de ne pas en percevoir le sens. Et la lecture des cathédrales, la lecture des œuvres d'art, des peintures notamment, me pose le même problème. Et pose, je l'imagine, à la plupart des Français le même problème. Et c'est extraordinairement triste de voir qu'on n'est plus capable de comprendre les symboles ou les idées qu'on nous présente, de ne pas entrevoir le moindre signe, alors que 3, 4, 5, 10 siècles avant, c'était des choses évidentes pour le plus commun des mortels. Ce verdict-là me semble épouvantable.
À l'image un peu de tous ces touristes en short, comme on dit, qui déambulent dans ces cathédrales, on est étranger un petit peu à sa propre culture parce que personne, tout simplement, ne vous a jamais expliqué de quoi il s'agissait.
Oui, et je me demande si beaucoup sont encore capables de nous l'expliquer. Et ça
c'est grave.
Ça devient très grave pour ça. Je suis persuadé, encore une fois, que la moindre cathédrale échappe à la compréhension de tout le monde.
Il faut dire que c'est complexe aussi.
Oui,
parfois.
Mais il n'y a pas que les cathédrales. Je reçois beaucoup de questions. La moindre croix à un carrefour peut interloquer aujourd'hui certains de nos contemporains. Même des choses simples, des symboles simples de la chrétienté échappent maintenant pour beaucoup à la compréhension. Cette rupture-là, cette fracture-là, elle mérite d'être comblée. Il y a effectivement une fracture parce que les signes chrétiens sont permanents, sont là, et on a même tendance parfois à les restaurer. On se donne beaucoup de mal, dans le fond, pour mettre en valeur le patrimoine chrétien, la peinture, la sculpture et le patrimoine, mais c'est plus par la défense du patrimoine qu'autre chose. Il faudrait sans doute dire ce que sont les choses et tenter de le faire comprendre.
On conserve, on ne participe pas. Pour participer, voilà. Il faut comprendre.
Quelque chose m'a plu récemment, j'ai entendu un conservateur du patrimoine chargé du Mont-Saint-Michel dire que dans le fond, il serait peut-être bien de faire découvrir le Mont-Saint-Michel en réintroduisant l'idée du pèlerinage, faisant que le touriste se mette à nouveau dans la peau d'un pèlerin pour découvrir le mont. Et dans le fond, réintroduire l'idée chrétienne, même chez le profane, même chez quelqu'un d'athée, pour, dans le fond, appréhender le lieu ou appréhender correctement l'œuvre ou la visite qu'il se propose de faire. C'est peut-être une démarche évidente. Si ça vient de l'État, tant mieux. On a peut-être trouvé enfin une approche pour faire comprendre les œuvres ou la culture chrétienne aux touristes ou aux fidèles ou à ceux qui, dans le fond, aiment l'art.
Votre livre n'est pas réservé aux chrétiens ?
Pas du tout. Non. C'est un livre qui s'adresse d'abord aux Français, aux ceux qui aiment la langue française, à tous ceux qui la cultivent, parce que dans le fond, c'est un inventaire linguistique, il s'adresse à tout le monde. Et il s'adresse aussi, bien sûr, aux fidèles, à ceux dont la charge est de propager la foi. Il s'engage sur cette voie. C'est un livre, effectivement, qui aide le prophète que nous sommes tous. Voilà, c'est un livre au service de la foi, au service de la culture, au service de la langue française.
Une recordation, si on devait prendre un autre terme, acte de se souvenir. Donc voilà, en principe, je me souviens.
Des mots qui, dans le fond, peuvent aider tout amoureux de la langue, qui veut étendre son champ à des mots qui ont certes une origine ou un sens chrétien, mais qui, dans le fond, peuvent tout à fait éclairer et animer son texte.
Alors, Pascal Raffal-Ambrogi, Le sens chrétien des mots, nom propre et commun du catholicisme, aux éditions Tempora. Je vais vous citer dans l'avant-propos, puisque vous avez dit que ce livre s'adressait aux Français, à ceux qui, à travers la langue, se montrent attachés à leur héritage. Les textes réputés fondamentaux du christianisme, les sources chrétiennes, écrivez-vous, patrimoine de l'Europe, ont contribué à fonder notre civilisation. Le domaine commun, la langue, la littérature, tous lui empruntent leurs origines. Et c'est là que vous avez des phrases, une articulation que l'on va essayer de détailler. Les connaître, c'est mieux nous connaître nous-mêmes. On devient français en étant imprégné par le christianisme. On le demeure sans doute en ne le reniant pas. On renoue avec notre héritage culturel et linguistique en le reconnaissant. Il y a trois mouvements.
Trois mouvements.
C'est engagé, c'est vrai. C'est-à-dire que vous associez l'identité chrétienne. Vous avez une autre phrase juste au-dessus. La patrie elle-même est née du cœur d'une sainte.
Oui, on passe à Jeanne d'Arc, bien sûr.
Bien sûr.
On rejoint ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Je vois mal comment on peut appréhender notre culture, ne pas trahir notre héritage, comprendre la France, son histoire, sa géographie, sa construction, son patrimoine historique, en ne s'intéressant pas, en ne connaissant pas ou en reniant la chrétienté et son empreinte. C'est un constat que j'ai fait, que d'autres font, et encore une fois, l'exemple du Mont-Saint-Michel est bon. On appréhendra le Mont-Saint-Michel en s'appropriant le parcours d'un pèlerin, qu'on soit chrétien ou pas. Et c'est une façon logique de comprendre, encore une fois, ou le Mont-Saint-Michel ou une cathédrale. Rentrer dans une cathédrale sans savoir de quoi il s'agit et tenter de la comprendre ou de l'apprécier, ne serait-ce qu'en simple amateur d'art, c'est pas concevable. Donc, à un moment ou à un autre, tout le monde doit s'approprier cette culture s'il souhaite la comprendre et l'apprécier.
Pourtant, si on regarde dans l'histoire, juste un petit point, on s'aperçoit que les plus grands zélateurs, je reprends un terme qui figure dans votre dictionnaire, de la langue française, ont souvent été très actifs après la Révolution française, sous la République. Et que c'est la République qui a fait du français et de la faute d'orthographe en particulier, un péché laïque. Mmh. Cet engouement pour le français, somme toute, il est assez récent. Et que les monuments dont on parle, à l'époque, les Français, ceux qui vivaient en France à l'époque, souvent ne le parlaient pas.
L'engouement est plus ancien malgré tout, parce qu'on trouve des traités On trouve beaucoup, beaucoup de manuels relatifs à l'expression au beau français, au bon chrétien, parce que parler français, c'était parler en bon chrétien.
Mais est-ce que ça a toujours été associé, ces deux notions?
Oui, oui, oui. Moi, je pense que c'est beaucoup plus ancien qu'on l'imagine. On s'est toujours attaché à essayer de développer le français au détriment des langues régionales. On a tenté d'unifier l'expression depuis toujours. Alors certes, la Révolution l'a peut-être accentuée pour des raisons politiques, mais beaucoup, beaucoup de bons et de grands auteurs ont tenté de défendre la langue et de la promouvoir. Donc ça, c'est un mouvement assez ancien. Et aujourd'hui, curieusement, on retrouve cet engouement pour la langue, plus que jamais sans doute, comme pour le patrimoine d'ailleurs, ce qui m'encourage à persévérer.
Alors pour ceux qui sont intéressés évidemment par la précision des mots, en particulier en ce qui relève du vocabulaire religieux, mais pas seulement, tenez, si on va à monastère, monastère c'est un établissement où vivent à l'écart du monde des moines ou des moniales, le lieu où l'on vit ensemble, puis évidemment il y a d'autres notions qu'il faut préciser, abbaye, chartreuse, carmel, cloître, couvent, béguinage, c'est vrai qu'il est beaucoup moins utilisé.
Ça. Voilà, et on va trouver encore une fois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, sur un même plan, associer des notions qui doivent être embrassées de façon commune. Ça me semble plus simple que d'utiliser des renvois. J'ai appliqué cette méthode-là à ce vocabulaire.
Par thématique, en
quelque thématique. Sorte. Je fais la même chose pour les couleurs liturgiques, pour les vêtements, pour le mobilier, pour l'architecture, encore une fois. C'est une façon d'abord d'éviter les renvois parce qu'on n'y va pas, et puis on ne s'y réfère pas, et puis de faciliter la compréhension de l'ensemble.
Oui, parce
d'un coup d'œil, on voit quel est le panorama architectural ou vestimentaire lié à l'exercice du culte ou à la propagation de la foi.
Alors, je prends l'exemple de nouveau de monastère. Donc, dans monastère, on a abbaye, béguinage qui est peu employé, c'est vrai, laure, une laure pour les orthodoxes, puis le prieuré, c'est le dernier mot. Donc, on a en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mots sous la référence monastère. Il a fallu faire un choix. Vous avez pris monastère, vous auriez pu prendre un autre mot sous lequel vous auriez mis tous les autres synonymes.
J'ai fait un choix. Je crois que j'ai pris monastère parce que dans le fond, c'est un mot plutôt
couvrant,
plutôt encore à l'esprit des Français. Et c'était plus facile, encore une fois, de choisir monastère plutôt que l'or. Et encore, l'or, je ne suis pas sûr qu'il ait sa place là, puisqu'il fait référence à autre chose que le catholicisme. Mais voilà, il faut faire des choix et essayer d'être un tant soit peu pédagogue.
Le sens chrétien des mots avec Pascal Raphaël Ambodji, nom propre et commun du catholicisme aux éditions Tempora. A tout de suite.
Contre les OGM. L'émission Regards croisés vous propose un débat entre deux scientifiques avisés sur la question, Gérard Toulouse et Pierre Feillet. Faites-vous votre propre opinion à l'écoute des arguments des deux parties en téléchargeant librement cette émission sur canalacademy.com.
Le sens chrétien des mots de Pascal Raphaël Ambrogi, c'est notre fil des pages, au fil de ces pages qui ressemblent à celle d'un dictionnaire, puisque justement c'est un dictionnaire, mais il a la légèreté justement des livres qui ne sont pas des dictionnaires, puisque, comme on le disait à l'instant, vous avez rassemblé sous un même terme des mots qui peuvent être synonymes, et comme évidemment les mots ne sont jamais exactement synonymes, il y a des nuances qu'il faut préciser, c'est ce que vous faites, et vous avez fait des choix. Vous l'avez rappelé aussi, un livre engagé, parce que vous avez précisé des concepts que vous estimez devoir être rappelés aujourd'hui parce qu'il y a un oubli, il y a le temps qui passe et puis l'absence, la défaillance du point de vue de la transmission. Donc il y a l'objet de pédagogie, de rappeler en particulier auprès des plus jeunes. Donc le sens chrétien des mots, c'est aux éditions Tempora, Pascal Raphaël Ambrogi. Je rappelle que vous animez un groupe parlementaire au Sénat et on avait commencé comme ça, c'est peut-être la vie politique qui vous a donné le goût pour la langue et la précision des mots, puisque les mots sont des armes dans ce milieu-là. Il y a aussi des noms propres, comme vous l'avez rappelé aussi. On en a quelques-uns que vous avez pu sélectionner. Je tombe aussi, là je voulais vous le rappeler, puisque vous ne faites pas de théologie, mais vous précisez quand même certaines choses. Par exemple, si on va à symbole, symbole c'est un mot très important, savons-nous seulement ce que veut dire symbole? Signe de reconnaissance, exposé de la foi chrétienne, signe de reconnaissance et de communion entre les croyants. Et on sait que celui qui divise le diable, c'est l'opposé justement du symbole. Là, il y a un rapport symbolique important. Il y a le symbole baptismal que vous déclinez, puis les principaux symboles chrétiens. Et il y en a pas mal, en fait, des symboles chrétiens, Pascal Raphaël Ambrogi.
Moi, j'en ai cité certains. On prend l'agneau de Dieu que tout le monde perçoit, mais il y a quelques dizaines de symboles qu'on retrouve sans savoir parfois les reconnaître ou les lire. Je cite le poisson, l'encre, le pan.
L'aspic.
L'aspic, bien sûr. L'alpha, l'oméga qu'on voit plus fréquemment. La licorne. Tout d'autres.
L'œil d'un triangle que l'on voit sur les monuments.
Évidemment, le triangle lui-même. Le pélican qu'on trouve. Il y en a un que j'aime particulièrement de pélican. D'ailleurs, c'est celui qu'on trouve sur le faîte d'un toit à Saint-Sulpice, à Paris. Que j'ai découvert relativement récemment. Mais voilà, il faut les connaître pour, encore une fois, pouvoir apprécier le patrimoine architectural. Mais vous parliez d'un dictionnaire tout à l'heure. J'ai voulu aller au-delà d'un dictionnaire. C'est aussi un livre à lire, un livre qui met en situation, en scène des textes. Et je fonde souvent mes définitions sur des textes, sur des extraits significatifs, pour que la Bible soit présente, pour que les écrits, les propos des papes soient le plus présents aussi, pour rendre le livre vivant, rendre accessible des textes auxquels on aurait peu ou pas accès, aller au-delà de la forme du dictionnaire et de définition.
Voilà, il n'y a pas le côté abrupt du dictionnaire.
Et quand un extrait de la Bible ou une citation d'un pape se suffit à elle-même, je m'en tiens là. Dans le fond, c'est aussi ce qui est le plus juste, me semble-t-il. Si la Bible donne une définition très parlante, pourquoi en dire plus ? Ce que d'autres dictionnaires ne feront pas, je pense que le mien, pour le coup, le permet. Il faut rester humble. Si la Bible dit quelque chose et que c'est explicite, pourquoi s'en priver ?
D'ailleurs, quand on va à texte, tout simplement, vous renvoyez à cette définition qui n'en est pas une, mais vous soulignez textes fondamentaux du catholicisme, donc la Bible, puis un certain nombre de textes, des sélections que vous avez
opérées. Encore une fois, très arbitraire, mais l'abbé de Pochard, dans sa quatrième de couverture, dit que, dans le fond, ces textes nous permettent d'entendre l'écho du divin. Voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Quand il me semble que leur résonance et leur étendue est suffisamment évidente, je me permets de les citer.
Des textes profonds et qui nous renvoient aussi au silence spirituel. L'inverse du tohu-bohu. Vous donnez la définition de tohu-bohu.
Qu'on trouve dans la Bible.
Informe et vide.
Informe et vide, oui.
Mais ça serait une bonne colle, parce que je ne suis pas sûr que la plupart des gens sachent de quoi il s'agit.
Et puis dans la langue courante, tohu-bohu, c'est tout le contraire, dans le fond.
Oui.
Donc voilà.
État de la terre dans le chaos primitif, le tohu-bohu. Thérèse.
Repréciser effectivement des choses comme ça, des mots qui ont glissé d'un sens à un autre, bon, sans qu'on sache trop pourquoi d'ailleurs, mais souvent par oubli, par mauvaise interprétation, et puis dans le fond, voilà. On a le même problème avec la langue française. Hein. En temps qui rappelle l'an passé, pour beaucoup, c'est jadis. Mais c'est fini. Plus personne ne pourra aujourd'hui parler d'antan en imaginant faire référence à l'année précédente. C'est très complexe.
Et jadis, c'est souvent employé comme naguère.
Voilà, et naguère est très proche. C'est perdu. C'est un sens qui a glissé et c'est très très délicat d'utiliser correctement le français ou donner un sens réel au mot.
Les médias portent évidemment une part de responsabilité dans ces glissements.
Les médias, bien sûr, la classe politique bien évidemment, le corps enseignant aussi, tout le monde. On fait tous des fautes, moi le premier. Alors il y a les fautes consenties, réelles, sensées, conscientes, etc. Et puis il y a celles qui dans le fond sont totalement inconscientes et sans doute irrattrapables.
Alors pourquoi est-ce que je pense aux médias ? Je vais vous donner un mot que... Ah bah tenez, vous ne l'avez pas sélectionné. Tiens, ça m'étonne. Le mot icône. Non, c'est vrai. Oui. Ah, peut-être l'avez-vous en renvoi quelque part. Non, je pensais à cela parce qu'on voit partout icône de la mode, icône du sport, icône du foot. Et le sport a énormément désacralisé le contenu religieux des mots. Tel attaquant a crucifié le gardien de but, etc. Il y a une liturgie du sport qui a en quelque sorte pillé le vocabulaire religieux et l'a détourné.
Oui, parce que les médias ou la publicité en règle générale accaparent des notions sans bien la comprendre et qu'ils imaginent que c'est un vecteur commercial ou de leur concept, ils le transforment, ils le manipulent jusqu'à en tirer effectivement quelque chose. Bon, ça c'est extraordinairement classique.
Quitte mais est-ce à que manipuler c'est bon pour les mots ou est-ce que ce n'est pas bon ? Parce que certains vous diront, de même que lorsqu'un tableau, par exemple, lorsque le tableau de la Seine est parodié par un publicitaire, certains vont vous dire, mais c'est bien parce que d'une certaine façon, ça prouve que le tableau de la Seine est encore une référence dans l'imaginaire de ceux qui le regardent et que l'on peut leur parler à travers ce tableau, même s'il est détourné. Quel est votre avis ? Est-ce qu'on peut détourner les œuvres d'art, quitte à peut-être les blasphémer pour le religieux, la personne croyante qui la regarde ? Est-ce que l'on peut détourner des mots comme ça impunément ou est-ce qu'il y a une part de sacré intouchable ?
Pour les œuvres d'art, pour certains lieux, ça me semble complexe, moi, de pouvoir jouer avec, même si je peux apprécier l'humour ou imaginer que le détournement de l'idée de l'image peut séduire ou peut avoir un sens, je reste très prudent. Dans le fond, on peut toujours choquer, et ça ne sert jamais à grand-chose de choquer ou de heurter. Je ne suis pas sûr que ça soit très bien, et dans le fond, pour les mots, c'est plus grave encore, parce que tout doucement, on les fait glisser d'un sens à un autre, et en les sortant de leur contexte, ils perdent de leur capacité à agir. Est-ce que appliquer la crucifixion au sport, sans faire la différence d'ailleurs avec crucifiement, ça a un sens ? Je ne pense pas, dans le fond. Je pense qu'ils sont employés souvent par des gens inconscients ou qui ont peu conscience du sens réel du mot.
Oui, sans portée manipulatrice uniquement.
Voilà, parce que je pense que c'est plus par bêtise souvent ou par... par mégarde. Mais le risque est là quand même, malgré tout.
J'avais parlé de Thérèse tout à l'heure. Alors justement, à Thérèse, qui est une figure connue, mais il y en a plusieurs des Thérèses, puisque vous parlez aussi de certaines grandes figures, Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Lisieux, bien sûr, ou l'enfant Jésus et de la Sainte Face, ce que vous mentionnez. Puis on tourne la page avec, évidemment, bienheureuse Mère Thérésa de Calcutta, ce qui vous a valu quelques recherches. Là aussi, on a des petites synthèses biographiques, en quelque sorte. C'est exactement, là que c'est plus qu'un dictionnaire aussi.
Hein. Ah oui, c'est beaucoup plus qu'un dictionnaire.
Vous n'auriez pas eu envie de faire aussi un dictionnaire des noms propres, dissociés des noms communs?
Alors, il existe des dictionnaires des saints ou des noms propres, mais effectivement, c'est peut-être une bonne idée, parce que noms propres du catholicisme ou de la chrétienté en général, c'est sans doute une piste à suivre, oui. Les saints, ça a été travaillé et l'inventaire est assez précis. Pour les noms propres, dans le fond, oui, il pourrait y avoir une...
Ah voilà, c'est une suite.
C'est une suite, oui. Oui. Beaucoup d'écrivains, sans doute, d'artistes, d'auteurs qui mériteraient d'être... oui, de religieux eux-mêmes, oui. Certainement un travail à faire... de ce point de vue-là, j'en cite beaucoup d'ailleurs. Hein. Je ne me limite pas aux saints. Je fais rentrer dans cette galerie des portraits parfois un peu inattendus. Oui. C'est possible.
Alors, si on veut se reporter aussi à quelques éléments d'actualité, on parle beaucoup en ce moment des questions liées au mariage annulé par le tribunal de Lille. Alors, on pourra se reporter à virginité, par exemple. Hein. Pie XII définit la virginité et son fondement, qui est de se consacrer uniquement aux choses divines en y mettant l'esprit et le cœur, de vouloir en toute chose plaire à Dieu, de penser constamment à lui et de se consacrer à lui entièrement de corps et d'esprit. La virginité est une source particulière de fécondité spirituelle dans le monde. C'est ce que vous dites. Puis si on va, justement, si on se décale quelque peu, on a aussi, bien sûr, le mot voile, qui est source de quantité, de malentendus, là aussi de quiproquos. Les précisions sont impérieuses, Pascal Raphaël Ambrogi, sur le voile. Qu'est-ce que ça veut dire, un voile? Là, c'est un voile dans le catholicisme.
C'est un voile dans le catholicisme, bien sûr. Ah, oui. Oui, bien sûr.
Mais quand on utilise le mot, est-ce qu'on sait de quoi on parle vraiment aujourd'hui?
Non, et puis surtout, si on l'utilise, on pensera tout de suite à la référence qu'on font les médias, ou même les Français aujourd'hui, immédiat, c'est-à-dire le voile dans le contexte musulman. Mais le voile a aussi un sens chrétien évident, et maintenant, c'est sans doute très, très difficile de rapprocher les notions et de revenir sur ce patrimoine chrétien. Et pour la virginité, le problème est exactement le même. Ça a une puissance considérable dans la culture chrétienne, et je ne sais pas si aujourd'hui on peut ou on doit, ou quelqu'un aurait la capacité à ouvrir ce débat-là sur le terrain chrétien, alors que c'est une notion fondamentale.
Eh bien voilà, vous avez conclu par notion fondamentale, justement. Ce sera notre point de conclusion, Pascal Raphaël Ambrogi, puisque justement ces notions fondamentales, vous voulez nous les rappeler à travers ce dictionnaire, qui est beaucoup plus qu'un dictionnaire, puisque c'est une façon de rappeler ces notions, en même temps une forme d'engagement,
voilà, mais
une forme de fidélité à un héritage, à un patrimoine.
C'est encore une fois pas un travail d'archéologue, je ne pense pas avoir cette volonté-là, mais serviteur du sens. Je crois que c'est le serviteur du sens.
Ah, c'est bien ça me plaît bien.
C'est, voilà, petit prophète, comme tout baptisé, amoureux de la langue française sans doute, et puis facilitateur. Le mot pas merveilleux, mais de la compréhension, de l'échange, de la sensibilité entre les hommes. Et encore une fois, la langue française est faite pour ça. Et en la développant, en rappelant les subtilités, en étendant son champ, on introduit du lien et de l'amour entre les hommes.
Merci d'avoir été un serviteur de sens, Pascal Raphaël Ambrogi. Le sens chrétien des mots, aux éditions Tempora, nom propre et commun du catholicisme.